Bonjour à tous.
Alors dès le début, pour commencer cette prédication, je vais vous demander un peu de concentration. Je vais vous dire une phrase, il va falloir se concentrer sur cette phrase, essayer d'en comprendre le sens. Il y a plusieurs mots qui pourront peut-être paraître bizarres à certains d'entre nous. Écoutez bien. Ces deux derniers jours, certains d'entre nous sont allés sur Aix-en-Provence pour assister à la conférence de groupe de la pastorale régionale préparatoire au prochain synode de notre union d'église. J'aimerais savoir qui a compris chaque mot de cette phrase. Qui en a compris le sens? Levez la main, s'il vous plaît. Il y en a, c'est bien, mais il y en a aussi qui ne se sont pas levés, je le comprends tout à fait. Du coup, je vais expliquer un petit peu. Alors, il faut savoir que notre Église appartient à une union nationale, l'Union des Églises évangéliques libres de France. Alors, il ne faut pas être troublé par le mot « libre », ça fait juste référence à un événement historique qui date de 1849 et le rejet du Concordat napoléonien. Bref, ça a un lien avec un événement historique et nous appartenons à une union nationale d'Églises. Et tous les deux ans, des représentants de toutes ces églises se réunissent pendant plusieurs jours pour discuter de l'orientation à donner à toutes nos communautés en France. C'est ce qu'on appelle un synode. Et chaque synode a un thème principal sur lequel tous les représentants de ces églises discutent. Et le thème de notre prochain synode, qui aura lieu en mai à Bergerac, le thème est « Droit, devoir de parole, quelle place pour nos églises dans le débat public ?» Un thème tout à fait d'actualité. Mais pour préparer en amont les discussions sur ce thème et les propositions qui seront faites par les églises à ce synode, à ce rassemblement national, les représentants des églises se réunissent d'abord par région. C'est ce qu'on a fait à Aix-en-Provence hier et avant-hier, et on appelle ça la conférence de groupe. La conférence de groupe de la pastorale régionale, c'est-à-dire des églises d'une même région. Donc maintenant, je vais répéter ce que j'ai dit en introduction. Attention, concentrez-vous. Ces deux derniers jours, certains d'entre nous sont allés sur Aix-en-Provence pour assister à la conférence de groupe de la pastorale régionale préparatoire au prochain synode de notre union d'églises. Je refais le test. Qui a compris maintenant le sens de cette phrase? Levez la main, je vous prie. Allez, bien haut, comme ça je vois si l'explication a suffi. Ça va. Je suis rassuré. Eh bien, en lien avec tout ça, j'aimerais ce matin, durant cette prédication, que nous puissions nous poser une question simple. Pourquoi une union d'église? On peut facilement trouver des utilités actuelles à se dire qu'on est plus visible par les autorités si on est uni en une union nationale. Mais moi, j'aimerais savoir si dans la Bible, nous pouvons trouver des réponses à cette question, ou des exemples concrets, par exemple dans la vie de l'Église primitive, de l'Église du premier siècle. Et pour cela, nous allons étudier ensemble deux textes ce matin, et le premier de ces textes se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 15. Alors, je ne vais pas lire tout le chapitre 15, je vous rassure, il y a deux textes quand même à voir, je vais juste lire certains passages. Tout d'abord, les premiers versets de ce chapitre 15. Acte 15, versets 1 à 6. Quelques hommes venus de Judée arrivèrent à Antioche. Ils enseignaient les frères en disant « Si vous ne vous faites pas circoncire comme Moïse l'a prescrit, vous ne pouvez pas être sauvés. » Il en résulta un conflit et de vives discussions avec Paul et Barnabas. Finalement, il fut décidé que Paul et Barnabas monteraient à Jérusalem avec quelques autres frères pour parler de ce problème avec les apôtres et les responsables de l'Église. L'Église pourvue à leur voyage, ils traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontant comment les non-juifs se tournaient vers Dieu, et tous les frères en eurent beaucoup de joie. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les responsables. Ils leur rapportèrent tout ce que Dieu avait fait pour eux. Mais quelques anciens membres du parti des pharisiens, qui étaient devenus des croyants, intervinrent pour soutenir qu'il fallait absolument circoncire les non-juifs et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Alors s'en suivent tout un tas de discussions entre les représentants des églises, les responsables de l'église de Jérusalem, et tous arrivent à la conclusion finalement que la circoncision n'est pas nécessaire au salut en Christ. Et ils décident alors, tous ensemble, d'envoyer une lettre à chacune des églises. Et là, je passe directement aux versets 22 et 23 de notre chapitre 15. Alors les apôtres et les responsables, avec toute l'église, décidèrent de choisir parmi eux quelques délégués et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Ils choisirent donc Jude, surnommé Barsabbas, et Silas. Tous deux jouissaient d'une grande estime parmi les frères. Voici la lettre qu'ils leur remirent. Et donc dans la suite de ce texte, nous avons le contenu de cette lettre qui dit à toutes les églises qu'il n'est pas nécessaire d'être circoncis ou d'observer la loi de Moïse pour avoir le salut en Christ. Seule la foi compte. Et je passe directement aux versets 30 et 31 de notre texte. On laissa partir les délégués et ils se rendirent à Antioche. Ils réunirent l'ensemble des croyants et leur remirent la lettre. On la lut et tous se réjouirent de l'encouragement qu'ils y trouvaient. Alors ce texte nous raconte l'une des premières difficultés qu'a pu connaître l'Église du premier siècle. Le salut en Christ est offert à tous sur la seule base de la foi. La foi en Jésus et la foi en son sacrifice pour le pardon de nos fautes. Il est offert à tous, c'est-à-dire aux croyants d'origine juive comme aux croyants d'origine non-juive. Mais si nous remontons à la naissance de l'Église, c'est-à-dire à la Pentecôte, à la venue de l'Esprit-Saint chez les croyants pour les unir à Dieu en un seul peuple, eh bien à ce moment-là, la grande majorité de ces premiers chrétiens sont d'origine juive, qui pratiquent les coutumes et la loi du peuple juif. Ils pratiquent notamment la circoncision. La circoncision qui est une coutume juive qui symbolise l'appartenance au peuple de Dieu. Petit à petit, le message de l'Évangile s'est répandu dans tout l'Empire romain et fatalement, de plus en plus de non-juifs sont touchés par ce message et se convertissent. Ils reçoivent le Christ comme Seigneur et Sauveur, ils reçoivent l'Esprit de Dieu et ils sont unis par Dieu au reste de son peuple, qui est l'Église, l'ensemble de tous les croyants. Mais que faire de la circoncision? Que faire de cet ancien signe d'appartenance au peuple de Dieu? Faut-il toujours le pratiquer ou non? En plus d'être converti, faut-il être circoncis pour appartenir pleinement au peuple de Dieu? Voilà la grande question qui se pose au début de l'histoire de l'Église. Tous les chrétiens de l'époque annoncent le salut en Christ, un même salut en Christ. Mais il reste aussi les écrits de l'Ancien Testament, notamment la loi de Moïse qui a été donnée par Dieu. Et ce qui divise les chrétiens de l'époque, c'est la compréhension de ces textes de l'Ancienne Alliance, de cette loi, à la lumière de la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. Tous les chrétiens de l'époque se basent sur la même foi en Christ. Tous se basent aussi sur les mêmes textes, mais comment les comprendre et quelles conséquences cela doit avoir sur la vie concrète des croyants? Vous connaissez sûrement ce grand principe de la réforme, le sola scriptura, qui signifie l'écriture seule, la Bible comme seule référence de notre compréhension de la foi en Dieu. Ce principe est très bon, mais il ne répond pas à la question suivante. Quelle interprétation, quelle compréhension de cette écriture sur laquelle tous nous nous basons? C'est le problème qui se pose à l'époque. Alors qu'a fait l'Église du premier siècle? Notre texte nous dit que les Églises ont envoyé des délégués qui se sont réunis en un grand synode, on pourrait appeler ça le premier synode de l'histoire. Et ils ont réfléchi ensemble à la question qui posait problème. En tant qu'église de professants, nous sommes une église de professants et nous prônons avant tout la foi confessée, la foi personnelle, la relation individuelle que nous avons avec Dieu et la lecture individuelle, personnelle de sa parole. Mais nous reconnaissons aussi que nous n'avons pas individuellement toutes les réponses, toute la compréhension de la volonté de Dieu pour nous et pour son peuple en général. Et nous croyons que si effectivement Dieu agit en chacun de nous, il agit aussi lorsque nous œuvrons ensemble, lorsque nous réfléchissons ensemble, lorsque nous cherchons à comprendre sa parole et sa volonté ensemble. Les églises locales du premier siècle, dans notre texte, se sont réunies pour discerner ensemble la volonté de Dieu pour son peuple. Et l'Esprit de Dieu a guidé leurs réflexions communes pour les aider dans leur discernement. Ils en sont arrivés à la conclusion qu'il ne fallait rien surajouter à la foi dans l'acquisition du salut. Ce synode a alors rédigé une lettre à destination des différentes églises locales de l'époque. Ce synode a aussi désigné des délégués, des personnes qui devront apporter cette lettre aux églises et qui représenteront cette décision. Et comme tout ce qui avait été fait, elle avait été guidée par l'Esprit Saint dans une recherche humble et soumise de la volonté de Dieu pour son peuple. Voici l'effet qu'a produit cette lettre auprès des croyants de l'époque. Et je vous relis les deux derniers versets. On laissa partir les délégués et ils se rendirent à Antioche. Ils réunirent l'ensemble des croyants et leur remirent la lettre. On la lut. Et tous se réjouirent de l'encouragement qu'ils y trouvaient. C'est avant tout dans cette même optique que notre union d'église existe. Nous, église locale ou chrétiens individuels, nous avons conscience d'être des membres à part entière du peuple de Dieu. Mais nous reconnaissons aussi n'être qu'une fraction, une partie de ce peuple. Nous reconnaissons l'œuvre de l'Esprit en nous, individus, entre nous, église locale, mais nous avons également conscience de nos limites et du besoin de complémentarité que nous avons les uns les autres dans ce grand peuple uni à Dieu. Nous ne voulons pas être des chrétiens isolés, mais nous désirons prendre notre place légitime dans ce peuple bien plus vaste que Dieu s'est acquis à la croix. Notre union d'église n'est pas non plus le peuple de Dieu. Elle n'en est également qu'une fraction, une partie, qui doit pouvoir aussi entrer en dialogue avec le reste de ce peuple. Et elle le fait d'ailleurs par nos représentants dans cette union. Mais au sein de cette union, tout comme dans l'Église du premier siècle, nous désirons vivre et mettre en pratique cette complémentarité, cette humilité, cette unité et cette soumission mutuelle que Dieu désire pour nous au sein de son peuple. Voilà la première et principale raison de l'existence de notre union d'église. Vivre ensemble la complémentarité, l'humilité, l'unité et la soumission mutuelle que Dieu désire pour nous. C'est la première et principale raison, mais j'en ai trouvé une autre dans un autre texte. Alors ce n'est pas la seule autre raison biblique qui peut expliquer l'existence de notre union d'église, mais je me limiterai à ces deux-là pour ce matin. Et je vous invite à suivre une autre lecture, cette fois dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 8. Encore une fois, je ne vais pas lire tout le chapitre 8, rassurez-vous, seulement quelques passages. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe dans ce texte. « Nous voulons vous faire connaître, frères, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. » Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses, mais les croyants, animés d'une joie débordante et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens, et même au-delà, j'en suis témoin. Spontanément et avec une vive insistance, ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui, à Jérusalem, appartiennent à Dieu. Je passe directement au verset 10 de notre chapitre. C'est donc un simple avis que je vous donne, et c'est ce qui vous convient. En effet, n'avez-vous pas été les premiers dès l'an dernier, non seulement à agir, mais à prendre l'initiative de ce projet? Achevez donc à présent de le réaliser. Menez-le à terme, selon vos moyens, avec le même empressement que vous avez mis à le décider. Lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés. Il s'agit simplement de suivre le principe de l'égalité. Dans la circonstance présente, par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Aussi, par leur superflu, ils pourront un jour subvenir à vos besoins. Ainsi s'établit l'égalité, suivant cette parole de l'Écriture, « Celui qui avait ramassé beaucoup de manne n'en avait pas de trop, et celui qui en avait ramassé peu ne manquait de rien. » Alors à l'époque, il y avait une grande famine dans la région de Jérusalem, et les chrétiens de cette région souffraient gravement à cause de cette famine. Alors une idée a commencé à germer dans toutes les églises de l'époque, dans tout l'Empire romain. Organisons une collecte, que toutes les églises locales mettent en commun une partie de leurs biens pour les faire parvenir à Jérusalem et ainsi venir en aide aux chrétiens de cette région qui sont dans le besoin. Cette idée a germé tout d'abord dans l'église de la ville de Corinthe, celle à laquelle Paul s'adresse dans cette lettre. Puis l'idée s'est répandue, en Macédoine notamment, dans les églises des villes de Philippe et de Thessalonique. Paul en parle même dans son épître aux Romains, qu'il destine aux chrétiens de la ville de Rome. L'idée germe, elle prend forme, elle s'organise. Les églises locales mettent de côté une partie de leurs biens, puis on délègue des représentants afin de réunir les collectes des différentes églises pour enfin les faire parvenir jusqu'à Jérusalem. Mais si l'église de la ville de Corinthe a en effet lancé l'idée de cette collecte, avec le temps, il commence à traîner dans la mise en pratique. Alors Paul, dans cette lettre, vient les titiller, les relancer. Il leur dit que les autres églises ont fait leur part, les églises même bien plus pauvres. À eux maintenant de faire aussi la leur. Mais si certaines églises ont donné, selon Paul, au-delà de leurs moyens, ce n'est pas ce que Paul demande à l'église de Corinthe. Non, il leur demande de donner en fonction de ce qu'ils ont, et non en fonction de ce qu'ils n'ont pas. Il ne leur ordonne pas non plus de donner. Il le dit lui-même, « C'est un simple avis que je vous donne. » Mais il veut que le zèle qu'ils montrent dans leur foi, dans leur connaissance de la parole de Dieu et dans leur amour, puisse aussi se manifester dans cet acte de générosité. Et enfin, Paul fait appel à un concept qui découle directement du même salut que nous avons reçu en Christ, de la même foi que nous partageons, de l'unité que nous vivons en faisant tous partie d'un même peuple, le peuple de Dieu. Et ce concept, c'est l'égalité. Et je vous relis ce passage des versets 13 à 15. Il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés. Il s'agit simplement de suivre le principe de l'égalité. Dans la circonstance présente, par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Aussi, par leur superflu, ils pourront un jour subvenir à vos besoins. Ainsi s'établit l'égalité. Suivant cette parole de l'Écriture, celui qui avait ramassé beaucoup de manne n'en avait pas de trop, et celui qui en avait ramassé peu ne manquait de rien. Toutes les églises locales sont des morceaux de ce peuple bien plus vaste qu'est le peuple de Dieu. Mais si elles sont effectivement de valeur égale aux yeux de Dieu, elles ne sont pas toujours égales sur la terre. Certaines sont dans le besoin, d'autres sont dans l'abondance. Certaines ont profusion de biens et de serviteurs, de personnes qui s'engagent. D'autres peinent à trouver un local où se réunir, ou à financer le travail d'un serviteur ou d'un pasteur. Mais l'unité que nous professons, l'égalité devant Dieu que nous reconnaissons, la même foi, le même sauveur, le même salut que nous partageons, la complémentarité que nous désirons vivre, tout cela nous pousse à vouloir rechercher également une certaine égalité matérielle entre nos églises. L'Église du 1er siècle a organisé cette collecte en faveur des chrétiens de Jérusalem. Ils ont mis de côté une partie de leurs biens. Ils ont désigné des délégués pour collecter le tout et pour le faire parvenir là où se trouvaient les besoins. De la même manière, dans notre union d'église, nous veillons à respecter une certaine égalité entre les églises locales. Chaque communauté met de côté une partie de ses biens en fonction de ce qu'elle a. Les églises plus riches donnent plus, là où les plus pauvres donnent moins, voire pas du tout. Le tout est réuni par notre union, et des personnes déléguées et élues en synode par nos églises locales veillent à répartir ces fonds en fonction des besoins de chacun, pour que selon notre texte, celui qui avait beaucoup n'en ait pas de trop, et celui qui avait peu ne manque de rien. Ce bel élan, cette belle initiative, chacune de nos églises locales s'y est engagée. Mais parfois, ça arrive, comme pour l'église de Corinthe, avec le temps, l'enthousiasme vient à s'essouffler. Et tout comme Paul, il nous faut pouvoir, sans culpabiliser et sans contraindre, rappeler à nos communautés l'importance de cette générosité et de cette égalité. En rappeler les principes, comme nous l'avons fait ce matin, mais en rappeler aussi la mise en pratique. Vous savez que chaque dimanche matin, vers la fin du culte, nous avons un moment d'offrande. Nous l'aurons d'ailleurs, vers la fin de notre culte. Dans ce moment, nous pouvons librement donner une partie de nos biens pour le fonctionnement de notre église locale. Eh bien, une petite partie de ce qui est récolté est reversée à notre union d'église, pour pouvoir venir en aide à celles de nos églises qui sont dans le besoin. Notre question initiale était « Pourquoi une union d'églises ?» Et ce matin, dans notre étude de ces textes, nous avons dégagé deux grandes réponses principales. La première, c'est qu'étant unis en Christ, en un seul peuple, le peuple de Dieu, nous désirons vivre ensemble la complémentarité, l'humilité, l'unité et la soumission mutuelle que Dieu désire pour nous dans la recherche de sa volonté. Et la deuxième réponse qui découle de la première, c'est notre désir de rechercher et de vivre une certaine égalité entre nos communautés. Voilà ce à quoi nous aspirons, non seulement nous, mais aussi toutes les autres églises en France qui appartiennent à notre union. Et je vous encourage à penser dans vos prières à notre union d'église, à son travail, et particulièrement à celle des communautés de notre union qui sont dans la difficulté ou dans le besoin. Que le Seigneur nous aide à vivre ce qu'il désire pour son Église, pour la seule gloire de Dieu. Amen.